Suivez Priorité Santé avec Sounou Bank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Après plus de 2 ans de pandémie de Covid-19 et alors que l'on compterait plus de 500 millions d'infections à l'échelle planétaire, il reste encore de nombreuses choses à découvrir et à comprendre en lien avec cette infection. Ce sont d'abord les atteintes pulmonaires responsables de redoutables complications respiratoires qui ont alerté et au fil des mois, on a compris que cette maladie émergente pouvait toucher d'autres fonctions, d'autres organes. Manifestations aiguës, cas asymptomatiques au fil des recherches et des observations, c'est aussi dessiné ce que l'on désigne aujourd'hui comme le Covid long, des douleurs, des dysfonctionnements qui peuvent s'installer dans la durée. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des troubles neurologiques en lien avec une infection au coronavirus. Maux de tête, perte d'odorat, fatigue, problèmes de concentration, vertige, un affaiblissement général qui nécessite un accompagnement multidisciplinaire. Un travail de recensement aussi, puisque ce sont des prises en charge inédites qui s'opèrent, puisqu'évidemment, qui dit émergence, dit absence d'expérience. Alors que sait-on aujourd'hui de ce Covid long et de ses atteintes neurologiques ? Notre sujet du jour. Comment le diagnostic est-il établi ? Quelle est la prise en charge proposée aux patients ? Sait-on si certains variants provoquent davantage de Covid long ? Et peut-on parler de Covid chronique ? Autant de questions que nous allons aborder au cours de notre émission. Des questions, mais attention, il faut encore une fois le souligner, il n'est pas évident de répondre à tout, il reste encore énormément à apprendre de cette maladie. Symptômes neurologiques après une infection d'origine virale, on retrouve en ligne le professeur Pierre Tatevin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. Également avec nous, et vous travaillez ensemble messieurs, docteur Thomas de Brouckère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du pôle neurologie et rééducation du centre hospitalier général de La Fontaine de Saint-Denis. L'état de connaissance de ces manifestations au long cours vu du Sénégal. On va donner la parole tout à l'heure au professeur Louise Fortes, infectiologue, coordinatrice prise en charge de la Covid-19 à l'hôpital d'Al-Aljam de Gouediawaye, enseignante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis, témoignage, celui de Mathieu Lestage, porte-parole de l'association Hashtag après J20, Covid Long France, gérée par un collectif de patients concernés. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue.
Priorité santé sur RFI.
Cette maladie, le Covid, qui après plus de 30 ans, après l'épidémie de VIH-Sida, a remis au premier plan le péril infectieux dans les pays développés. Infection à coronavirus, mais aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les conséquences de cette maladie sur le plan neurologique. Alors à partir de quel moment, professeur Pierre Tatevin, la communauté médicale a-t-elle pris conscience que la prise en charge de cette maladie émergente ne serait plus seulement l'affaire des infectiologues et des réanimateurs, mais comme on le voit aujourd'hui, élargie à d'autres spécialités, dont la neurologie ?
On a repéré dès le décours de la première vague, finalement, dès le mois d'avril 2020, qu'une partie des patients qui avaient fait des Covid pourtant pas graves du tout, qui n'étaient pas des gens à risque particulier, qui étaient d'ailleurs restés chez eux, qui n'avaient pas été hospitalisés, nous reconsultaient pour signaler qu'ils n'avaient pas retrouvé leur état de santé antérieur.
Et cette proportion, justement, parmi les malades, est-ce qu'il a été possible de la déterminer ou on n'a pas vraiment de données chiffrées à ce sujet ?
Il y a eu beaucoup d'études. Je peux vous parler de notre expérience personnelle. On avait évalué les 300 premiers patients qu'on avait eus dans le service pour des Covid non graves, donc pas hospitalisés, vus en consultation.
En région parisienne.
Je suis en Bretagne.
Ah oui, à Rennes, excusez-moi, j'ai interverti avec votre confrère. Donc vous étiez sur la région rennaise, d'ailleurs où l'épidémie avait été pas fulgurante dans les premiers temps.
Non, effectivement, ce qui nous a peut-être donné un peu plus de temps pour s'occuper justement des Covid longs à ce moment-là. Et en fait, quand on les avait réinterrogés 6 semaines après, on avait essayé d'avoir un point fixe pour avoir des données solides. Il y avait la moitié des patients qui disaient qu'ils n'avaient pas retrouvé complètement leur état de santé. Soit ils n'arrivaient pas à refaire, par exemple, ceux qui étaient actifs qui avaient des loisirs, qui faisaient des jogging, ils n'avaient pas pu reprendre ça, ou bien au niveau professionnel, ils avaient encore des arrêts de travail prolongés. Et ce chiffre, donc c'était 50% à 6 semaines, a tendance à s'améliorer après. Mais le point qu'on avait eu à 6 semaines, c'était ça.
Et il y avait aussi les symptômes qu'on avait découverts au-delà de la toux, de la gêne respiratoire et de la fièvre. Docteur Thomas de Brouckère, il y a eu assez rapidement des personnes qui se sont plaintes donc, de ces troubles plutôt atypiques. Je n'ai plus le goût de la nourriture, je ne sens plus les parfums.
Oui, certainement. Il y a d'emblée, on a vu que l'appareil olfactif était touché dans le Covid aigu. Et c'était même un des critères importants d'orientation du diagnostic. La question a été est-ce que l'atteinte de l'olfaction et donc finalement du goût par ricochet était en rapport avec une invasion du système nerveux par le virus ou avec une atteinte simplement de ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, c'est-à-dire l'endroit de la muqueuse nasale bien encombrée lors du Covid, qui ne peut plus capter les molécules odoriférantes du fait d'une inflammation extrêmement importante à ce niveau. Actuellement, il est à peu près clair qu'il n'y a pas d'invasion du système nerveux par ce biais-là, contrairement à ce qu'on craignait énormément au départ. Mais néanmoins, il y a une destruction qui peut être importante de l'appareil qui permet du récepteur qui permet de sentir les odeurs. Et de ce fait-là, des séquelles sont fréquentes. L'anosmie, le trouble du goût et puis des mauvaises odeurs qui peuvent persister des mois, voire même plus que des mois chez certains patients. Et pour le neurologue que je suis, il ne s'agit pas forcément d'un symptôme neurologique. Il s'agit d'une atteinte, c'est un petit peu comme si c'était l'oreille qui était touchée, on aurait une surdité. Là, on a une difficulté de reconnaître les odeurs et qui retentit sur le goût, parce que le goût est pour grande partie affaire d'odeur.
Alors justement, quand on parle de symptômes persistants sur le plan neurologique, est-ce que l'on sait si les personnes concernées ont eu une forme lourde, avec par exemple une hospitalisation, voire même des survivants de la réanimation, ou si finalement cette sévérité dans la phase aiguë n'est pas un critère réel, pas un critère observé pour les formes de Covid qui s'installent ?
Alors, en gros, on a l'impression qu'il y a une différence de population entre les Covid hospitalisés et les patients qui vont présenter des symptômes durables. Il y a deux phases, les six premiers mois après l'infection, où de très nombreux, comme disait le professeur Tadevin, de très nombreux patients présentent des symptômes longtemps et qui vont s'amenuiser avec le temps. Et puis, il y a des patients qui, au-delà de 6 mois, 1 an, voire 2 ans après, puisqu'on est à 2 ans maintenant de la première vague, qui a été quand même très 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 toxique, si on peut dire, des symptômes persistent chez des gens qui, en fait, n'ont pas été hospitalisés, ont plutôt, effectivement, n'ont pas même nécessité d'oxygénothérapie pendant cette phase aiguë, et qui présentent des symptômes qui, finalement, réalise un tableau qui est plus grave en termes de conséquences que le Covid lui-même l'a été. Et c'est un mystère, ça reste encore assez mystérieux comme constitution de maladie, que cette soit persistance, soit apparition, soit aggravation éventuellement fluctuante de symptômes qui évoquent une anomalie de fonctionnement du système nerveux.
Justement, ces symptômes, est-ce que vous pouvez nous les énoncer ? La liste est assez longue. Quand on a justement ce Covid long et qu'on a des troubles neurologiques, on ressent quoi ? Qu'est-ce qu'on a précisément ?
Alors, je mettrai de côté d'emblée l'anosmie, justement, je viens d'en parler. Je mettrai aussi de côté les céphalées, parce que les céphalées, c'est la tête qui fait mal, mais finalement, le système nerveux, s'il était malade, on n'aurait peut-être pas forcément de céphalées. Vous voyez, c'est un organe qui est totalement dénué de terminaisons sensitives, et donc les maladies du cerveau, en général, ne font pas mal. Je mets de côté ces deux symptômes. Je dirais que le symptôme principal, de très loin, c'est la fatigue. Ouais. Et la fatigue, ce n'est pas une fatigue au sens musculaire. Et on peut parler probablement de fatigue mentale pour une grande partie, alors qui se traduit effectivement par un effondrement des capacités, y compris physiques, hein, mais ça concerne aussi la motivation, ça concerne aussi les capacités de faire deux tâches en même temps, ça concerne l'attention. Et de ce fait-là, beaucoup de patients se plaignent de troubles de mémoire. Un trouble de mémoire qui finalement rentre dans cette espèce de tableau global de dysfonction du système nerveux qu'on pourrait, il y a des travaux qui portent là-dessus, mais pas dans le cadre du Covid, qu'on pourrait appeler ou rattacher à cette fatigue neurologique, fatigue mentale.
Des symptômes qu'on va évoquer dans quelques minutes avec notre témoin. Certains chercheurs vont même jusqu'à comparer ces troubles à un vieillissement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de vieillissement. Il y a eu un travail dont on parlera peut-être, hein, sur l'épaisseur du cortex cérébral, c'est-à-dire de la substance grise.
Qui aurait une modification du cerveau.
Oui, voilà. Il y a eu un travail qui vaut ce qui vaut. On pourra en discuter. Je crois qu'il faudra que ce soit dupliqué avant qu'on puisse en tirer quoi que ce soit, et que c'est un peu douteux comme résultat. Néanmoins, la pathologie que l'on observe, elle est bien réelle. Les patients s'en plaignent. Ils sont extrêmement invalidés pour certains. On peut penser, et il est très probable, que la fonction de régulation de ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire de tout le système nerveux qui commande notre tension artérielle, qui commande les fonctions digestives, il y a un certain nombre d'éléments, et probablement aussi le degré d'énergie entre guillemets qu'on peut développer mentalement, que ce système-là fonctionne mal, et il fonctionne mal de façon très curieusement fluctuante. Il y a des jours où ça va bien et des jours où ça va mal. Et ces jours où ça va mal, les patients disent qu'ils sont anéantis.
C'est plus qu'être à plat, complètement vidé. Professeur Pierre Tadevin, on a bien vu l'évolution, l'infectiologie, puis finalement, on apprend à cerner, à comprendre les symptômes chez les patients. Et justement, cette adaptation dans la clinique, dans la recherche, vous examinez ce qui se passe, vous observez, et du coup, cela oriente et cela change le parcours de soins pour les patients concernés.
Oui, absolument. C'est-à-dire que la première étape, ça a été de comprendre ce qui se passait. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont recherché si le virus était encore persistant, par exemple, quand les gens se plaignent de symptômes qui durent, ce qui était vraiment important, non seulement pour savoir si on avait un traitement à leur proposer, mais aussi pour le risque de contagiosité. Et la réponse était non, le virus n'est vraiment pas du tout présent chez ces patients au-delà des deux ou trois premières semaines de la maladie. Et puis après, on a regardé aussi, même dans d'autres organes, pas seulement le cerveau, s'il y avait des lésions au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque. Et là encore, la réponse était non, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Les organes sont prêts à refonctionner. Mais comme le dit très bien Thomas, pour l'instant, ils fonctionnent pas toujours bien, pas tous les jours. Et donc, la meilleure proposition qu'on a pu faire aux patients, ce qui semble leur apporter le plus de bénéfices, c'est des programmes plutôt de réhabilitation à l'effort, de réadaptation, pour refaire fonctionner ces organes qui ont tout pour fonctionner, mais qui finalement ne fonctionnent pas si bien que ça.
Et c'est particulièrement complexe justement, parce que c'est une sorte de revers de la médaille. Comme il n'y a pas vraiment de traces biologiques, pas de marqueurs, certains traduisent cette invisibilité, entre guillemets, comme une absence de réalité. On parle de somatisation. Et pour les patients qui souffrent et qui sont parfois lourdement handicapés, c'est quelque chose, Pierre Tadevin, qui est extrêmement douloureux.
Mais oui, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire à la fois quand même prendre cette information comme une bonne nouvelle, le fait que les organes ne soient pas lésés, et en même temps bien faire comprendre aux patients que ça ne veut pas dire que leurs symptômes ne sont pas là, les symptômes sont là, mais simplement ils ne sont pas liés à des lésions, donc ça donne de l'espoir, ça veut dire qu'on doit pouvoir réussir à faire repartir la machine. Et c'est vrai que des professions comme les rééducateurs, par exemple, nous ont beaucoup aidés, ou les spécialistes de la médecine du sport, pour essayer de redonner plus de tonus, plus d'activité, plus d'allant, plus de fonction finalement aux patients qui souffrent de Covid long.
Et on le verra aussi, il y a une approche psychologique qui peut être assez importante. On va vous retrouver, messieurs, dans quelques instants. Tout de suite, notre témoignage.
Priorité Santé sur RFI.
Ce témoin, c'est vous, Mathieu Lestage, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous êtes aujourd'hui le porte-parole de l'association Hashtag Après J20. Qui se retrouve dans votre association ?
Eh bien, tous les malades Covid long se retrouvent dans notre association. On a encore de nombreuses adhésions et de nombreux nouveaux arrivants qui, en fait, depuis plusieurs mois, ne comprennent pas ce qui leur arrive et découvrent notre association et découvrent enfin qu'ils ne sont pas tout seuls. Et comme j'ai pu l'entendre là dans les quelques minutes que je viens d'entendre, que ce n'est pas forcément dans leur tête et qu'il se passe réellement quelque chose, mais qu'on ne le comprend pas.
Être reconnu justement dans ce que l'on traverse. Est-ce que vous savez, vous, Mathieu Lestage, quand précisément vous avez contracté le Covid ?
Alors, octobre 2020, j'ai été testé PCR positif le 18 octobre. Mmh. Et de là a découlé les 20 derniers mois que je viens de passer, très, très compliqués, avec des hauts, des bas. Une infection qui a duré 3 semaines et demie, un départ aux urgences pour suspicion d'embolie pulmonaire, et puis bizarrement une sortie dans la même journée en me disant que j'étais jeune, j'avais 42 ans il y a cette époque-là, j'étais en forme physique extraordinaire, c'est ce que m'a dit le médecin, c'est d'ailleurs ça qui m'a sauvé.
On précise, vous n'avez pas de comorbidité, donc vous êtes quelqu'un de très actif, très sportif, ça compte. Comme le médecin vous l'a dit, ça vous a très certainement aidé à surmonter l'épreuve. Mais malgré tout, ça a été un moment absolument épouvantable.
Ah oui, bien sûr, quand toutes les fonctions, vous avez l'impression que tout votre corps vous lâche et que vous ne maîtrisez pas, c'est assez traumatisant comme expérience. D'ailleurs, je suis suivi aujourd'hui pour un syndrome post-traumatique. Mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je n'ai jamais été malade de ma vie. J'ai eu, au pire, un petit rhume de temps en temps. Et quand le médecin m'a laissé sortir en me laissant entendre que j'étais arrivé au pic de l'infection, qu'il restait 2-3 semaines au pire où j'allais être un peu encore dans le dur, on va dire. Et puis qu'après, normalement, mon corps allait éliminer tout ça et puis c'était terminé. Et puis j'allais reprendre ma vie comme elle l'était avant.
Aujourd'hui, comment vous disiez, vous étiez sportif. Aujourd'hui, pour bouger, pour votre motricité, votre mobilité, ça se passe comment ?
Aujourd'hui, je n'arrive pas à courir. Je n'arrive plus à sauter. Je marche péniblement. Dans les premiers mois, c'était 5 mètres. Et encore, je ne suis même pas sûr que j'arrivais à faire les 5 mètres. Aujourd'hui, j'arrive à marcher 2,670 km. Je tiens à tous ces mètres.
Ouais.
Parce que après, malheureusement, si je dépasse cette limite, je risque la perte de connaissance. Ouais. Et j'ai
donc vous allez au bout de vos ressources.
Je crois que j'avais peut-être un petit plus chez moi, c'est que je suis têtu. Tout dépend comment on le voit, têtu ou tenace. Donc quand je faisais 5 mètres, je me disais que 5 mètres, je ne fais rien dans ma vie avec 5 mètres. Donc j'ai essayé d'augmenter cette distance et je crois que c'est ça qui fait que j'avance, c'est que je me fais mal tous les jours pour avancer. Malheureusement, 2,670 km, ça fait toujours pas ma vie et pour continuer à vivre, j'ai un fauteuil roulant.
On appelle ça la persévérance.
C'est ça.
La persévérance.
La ténacité.
Alors, les symptômes, on a compris, un épuisement généralisé, y compris des douleurs. J'imagine que vous avez vu des tas de médecins.
En 20 mois, je crois que j'ai vu plus de spécialistes en HOG que j'ai pu en voir en 43 ans.
Ouais.
Le docteur Thomas de Brouckère en fait partie. C'est le premier neurologue que j'ai vu qui m'a diagnostiqué un problème de système nerveux autonome ou central. À ce moment-là, on ne savait pas trop, mais le diagnostic est... Alors, ce n'était pas forcément un diagnostic, mais dans l'examen total, c'est ce qu'il en découlait. Et plus on a cherché avec les différents spécialistes, neurologues, cardiologues, j'ai vu 3 neurologues après.
Excusez-moi, est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez eu le sentiment qu'enfin, on reconnaissait la réalité, le sérieux de cette atteinte ? Est-ce qu'avant, vous avez l'impression qu'on ne vous prenait pas vraiment au sérieux ?
C'est difficile de répondre à cette question. Parce que Oui, aujourd'hui, les médecins qui me suivent me prennent au sérieux, mais je n'ai pas plus de réponses, en fait.
Tout à fait.
On entend ce que je dis, puisque quand, par exemple, j'ai fait une journée d'hospitalisation dans un hôpital parisien, j'ai fait 3 malaises, c'était concret. Je suis bien tombé dans les pommes, j'ai bien fait des malaises, tout mon système ne fonctionnait pas. Mais pour autant, à la fin de la journée, les médecins en face de moi m'ont dit qu'ils étaient démunis, qu'ils ne comprenaient pas, parce que les mesures qu'ils avaient faites étaient dans la norme. Et ce que vient de dire un des invités, c'est que nos organes sont vivants, nos organes sont en bonne santé, à part les hypométabolismes cérébraux que j'ai, mais tout fonctionne. Enfin, on va dire que du point de vue médical, tout fonctionne. Mais pour autant...
ça ne marche pas. Pour autant, ça ne marche pas du tout. Mathieu Lestage, vous y tenez, symptômes et pas séquelles. Pourquoi cette nuance est-elle si importante à vos yeux ?
Alors, je m'accroche à un but, c'est reprendre ma vie. Ouais. Et je me dis que tant que j'ai des symptômes, les symptômes sont fluctuants, les symptômes, on peut les améliorer. Malheureusement, une séquelle a pour moi le sens de finalité. Une séquelle, c'est à vie.
Une condamnation.
Et voilà, c'est quelque chose que dont je ne pourrais plus me débarrasser.
Alors
et
justement, vous faites des tas d'efforts pour vous débarrasser de ces douleurs, de ces impossibilités. Précisez-nous vos soins aujourd'hui, votre parcours, c'est quoi ?
Mon parcours, c'est 2 fois par semaine, un kiné, respiratoire et réadaptation physique. Celui-là, je crois que c'est mon médecin que j'adore. il me fait remonter la pente, même si, attention, effectivement, le sport nous fait remonter, mais... les malaises post-effort sont quelque chose à prendre en compte. Il y a cette limite invisible qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à gérer. Et si on dépasse cette limite, encore aujourd'hui, malheureusement, on passe malheureusement du côté obscur et les mauvais côtés reviennent. J'ai un kiné vestibulaire qui me permet de me recaler dans l'espace. J'ai beaucoup de vertige. Si je vais trop vite en déplacement, je perds l'équilibre. J'ai un suivi à l'Hôtel Dieu à Paris, dans l'unité du professeur Salmon Céron, qui a créé la première unité post-Covid et Covid long, pour un suivi tous les 3 mois, pour voir l'évolution, savoir vers qui me tourner à nouveau pour avoir un peu plus de réponses. J'ai demandé aussi à être cobaye, à pouvoir faire avancer les choses. Je suis dans diverses études comme Compare, Persico, pour en fait faire du data, c'est-à-dire avoir de l'information. Aujourd'hui, malheureusement, nos médecins ne nous devancent pas, comme dans toute autre maladie. Ils marchent à nos côtés et en fait, c'est un échange mutuel qui est compliqué des fois avec des médecins puisqu'il y a par moment du scepticisme et c'est compliqué en fait d'avoir un feedback, d'avoir un échange constructif. Il faut des fois se justifier de ce que l'on a à nouveau. Quand on est fatigué, en plus, il faut apporter les preuves. C'est compliqué quand, malheureusement, sur les examens, il n'y a rien. C'est compliqué d'apporter des preuves.
Et c'est important de faire partager cette expérience. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce témoignage que vous avez suivi en même temps que tous les auditeurs de Priorité Santé. Docteur Thomas de Brouckère, vous connaissez donc, on l'a bien entendu, Mathieu Lestage. Ces troubles, ce sont aujourd'hui des manifestations que vous rencontrez dans votre exercice de neurologue ?
Oui, dans l'exercice de neurologue, dans ce cas particulier de Covid long ou de symptômes post-Covid, on peut appeler la pathologie dont souffrent les patients. Je ne vais pas parler de Monsieur Lestage en particulier, sauf qu'il a une caractéristique qui est très particulière, qui est, je trouve, qu'on retrouve assez fréquemment chez les patients qui sont aussi invalidés que lui, c'est que il y a un terrain particulier qui est d'avoir avant le Covid été, et j'espère qu'il le sera de nouveau, quelqu'un de très actif, d'extrêmement dynamique, pas habitué à l'échec, entre autres, et qui montre d'ailleurs, par sa combativité, que c'est sa personnalité. Mais on retrouve relativement fréquemment, je ne vais pas en faire une généralité, mais on retrouve assez fréquemment des personnes, et notamment des femmes, hein, comme des hommes, qu'on pourrait qualifier d'hypertimiques, c'est-à-dire extrêmement, qui auparavant étaient caractérisées par un dynamisme reconnu par tous et par toutes, de leur entourage, capable de faire trois choses en même temps, lancé dans des associations X ou Y, hein, je ne parle pas évidemment d'associations de patients, hein. Ou faisant de la politique, ou etc. Et donc il y a une personnalité, je pense, importante à noter, c'est que c'est, cette personnalité dynamique ou hyperthymique fait que la plupart tombent de très haut. Hein, finalement, et il est très difficile de reconquérir quand on est quand on a eu un an ou six mois ou un an de fatigue très importante. Il est très difficile de reconquérir finalement son niveau antérieur, et ça, c'est une frustration qui, je pense, doit être un des axes de travail associés à la kinésithérapie dont on a entendu parler, car il faut faire comprendre aux personnes que quand on a descendu une marche, il est beaucoup plus difficile, un peu comme les pourcentages à la bourse, hein. Il est plus facile de perdre 5% que de regagner 5%. On est un petit peu dans la même logique ici. Voilà, donc c'est l'exemple de Monsieur Lestage est un exemple extrême tout de même en termes d'invalidité, mais c'est tout à fait entendable que de dire. D'une part ce qu'il dit, et d'autre part, pour les médecins, de dire « je ne comprends pas, travaillons ensemble ».
Alors justement, ce travail commun, je m'adresse au professeur Pierre Tadevin, on apprend justement les contaminations, il y a le suivi, et c'est très important de pouvoir suivre les patients au long cours, et de votre côté, vous avez mis en place des mécanismes justement pour éviter les perdus de vue, hein, comme on dit dans votre discipline.
Oui, mais on s'est rendu compte assez vite, hein, ça a été très bien expliqué par Mathieu Lestage. Je pense qu'on peut, on parle parfois de patients experts quand ils commencent vraiment à bien connaître leur maladie et puis la meilleure façon de remédier aux symptômes. Et c'était très clair son témoignage. Et on s'est rendu compte assez vite que les infectiologues, ceux que je suis, n'ont pas une grosse valeur ajoutée après pour le Covid long. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, on a une astreinte téléphonique et des consultations qui permettent de répondre à la demande. Mais le plus souvent, on fait pas le suivi, puisque assez vite, c'est les médecins, les rééducateurs, et là aussi, ça a été très bien dit, ou les médecins du sport qui assurent après le suivi les récupérations progressives des fonctions qui peuvent prendre très longtemps et qui peuvent être incomplètes, comme ça a été bien dit.
Alors, comme on disait, il y a encore beaucoup de questions en suspens. Je m'adresse encore là à l'infectiologue, hein, professeur Tadevin. Je ne sais pas du tout s'il y a des réponses. Est-ce que l'on sait si certains variants sont davantage susceptibles d'entraîner des conséquences neurologiques, voire un Covid long ?
Alors, on sait qu'il y a des différences. Par exemple, le dernier qui nous a frappé fort, là, le Omicron, avait très peu les troubles de l'odorat et du goût dont on a parlé, qui étaient vraiment beaucoup plus nets à la première vague et puis dans les vagues suivantes, mais pas avec Omicron. Et pour ce qui est du Covid long, je crois que c'est vraiment trop tôt pour dire.
D'accord.
Trop tôt.
Ouais. Alors, on peut dire... Et au sujet de la vaccination, autre question, là encore, je ne sais pas s'il y a de réponse. Est-ce qu'on recense moins de Covid long chez les personnes qu'un schéma vaccinal complet ?
Je pense pas qu'on ait une réponse solide à ça. Il y a des témoignages qui disent que les gens qui avaient un Covid long et qui ont été vaccinés, il y a une partie d'entre eux qui a semblé vraiment bénéficier de la vaccination. Et je saurais pas vous expliquer comment, mais c'est des témoignages personnels de patients qui disent, ah ben moi, depuis que j'ai été vacciné, ça va mieux.
On est plus sur des impressions que sur des études sérieuses, des études scientifiques. Alors, on va continuer de parler de ces manifestations neurologiques du Covid-19 dans Priorité Santé. On poursuit notre échange juste après. Mereba, stay true. Da 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 da. We driving on the west side, 9:45 US, should be light. I say alright, that will be delightful. I think I like you, kinda enticing. So you wanna know what it's looking like? That's justified, cause it's been some time. I don't know, no, I don't know. See, I'm hella hip this time. Ain't going down with no ship this time. Cut the bullshit.
shit this time. Crazy on some lips, could you kiss me blind? No, no, not this time. See, I'm hella hip this time. Ain't going down with no ship this time. So cut the bullshit this time. Crazy on some lips, could you kiss me blind? No, no, not this time. The compromising, I'd rather sleep with no one beside me than with a goose with all the froze. Yeah, yeah. So, don't get it twisted. I have to dip. It's imperative that you don't forget just who it is that you're playing with. Yeah. See, I'm hella hip this time. Ain't going down with no ship this time. So, cut the bullshit this time. Crazy on some lips, could you kiss me blind? No, no, not this time. See, I'm hella hip this time. Ain't going down with no ship this time. So cut the bullshit this time. Crazy on some lips, could you kiss me blind? No, no.
Priorité santé sur RFI Covid, longue manifestation neurologique aujourd'hui dans Priorité santé quand certains symptômes ne s'estompent pas. Toujours avec nos deux invités, le professeur Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, et le docteur Thomas de Brouckère, chef du pôle neurologie et rééducation au centre hospitalier général de La Fontaine de Saint-Denis. Docteur de Brouckère, on a une question Facebook de Binta. Elle est à Nouakchott en Mauritanie. Elle écrit « J'ai eu le Covid en novembre 2021 ». Perte d'odorat, 5 ou 6 mois, ça persiste malgré tous les traitements. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a justement des pistes pour recouvrer ces sensations perdues après le Covid? Est-ce qu'on a des informations là-dessus, docteur Thomas de Brouckère?
Oui, en deux mots, effectivement, l'atteinte de l'olfaction peut laisser des séquelles. Et le seul traitement, c'est une question plutôt ORL que neurologique, mais le seul traitement qui existe à l'heure actuelle et qui n'est pas dénué de succès, c'est de la rééducation olfactive, et qu'on peut faire soi-même à la maison. Il y a sur le site internet de la société d'ORL, il y a des vidéos sur ce sujet. Donc, je conseillerais d'aller regarder là, il n'y a pas de traitement local et pas de en dehors éventuellement de lavage, mais à faire prudemment quand même au niveau des fosses nasales. Sinon, 6 mois après, a priori, il n'y a plus d'inflammation. Donc c'est plutôt malheureusement, il y a un risque de séquelles à long terme.
Donc il y a des petits exercices à faire. On va essayer de trouver l'adresse de ce site ORL de la société. On la mettra sur la page Facebook de l'émission. On parle d'atteinte avec des fois des effets totalement invalidants. Professeur Pierre Tadevin, est-ce que pour autant les patients en France peuvent entrer dans le dispositif des affections de longue durée pour bénéficier d'un traitement prolongé et d'une meilleure prise en charge?
Alors c'est un débat assez compliqué parce que en fait on est encore assez proche du début de cette épidémie, c'était il y a 2 ans. Et on continue à avoir l'espoir que les gens n'auront pas besoin de considérer que c'est pas des séquelles, quoi, c'est des symptômes et qu'on espère que les choses s'améliorent. Donc les procédures pour avoir accès à la reconnaissance affection de longue durée sont pas encore très en place. On est plutôt concentré sur le fait d'essayer d'aider les patients à récupérer. Mais c'est pas quelque chose qui est exclu, Il est possible qu'une partie des patients ait besoin d'une reconnaissance en ALD, donc affection de longue durée.
Alors justement, il y a certains patients qui regrettent que c'est parfois très long d'être pris en charge, docteur Thomas de Brouckère, par une équipe dédiée. C'est pas évident d'entrer dans toutes les cohortes. Vous avez des retours à ce sujet?
Oui, alors en fait, ce qui est clair, c'est qu'il faudrait dans l'avenir faire en sorte qu'il y ait des centres dédiés au syndrome que l'on peut observer après les infections, de façon plutôt globale d'ailleurs, mais c'est le Covid a été un tel raz-de-marée qu'évidemment ça concerne principalement à l'heure actuelle les symptômes post-Covid, et on est quand même très proche de syndrome post que l'on peut voir en post-infectieux après certaines infections virales, et on est en même temps très proche aussi de ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Je crois qu'il y a à ce sujet un travail national à faire pour établir un réseau de centres de recours. Mais néanmoins, à l'heure actuelle, dans ce cadre du Covid, et notamment des symptômes persistants, je dirais dans les 3 mois qui suivent le Covid, ou même dans les 6 mois, avant d'aller dans un centre expert, il y a tout le réseau, évidemment, des médecins traitants, des médecins généralistes qui couvrent l'ensemble des patients, et qui ont été la cible de recommandations de la Haute Autorité de Santé, auxquelles j'ai participé d'ailleurs, qui sont sorties en février et actualisées en novembre dernier, et qui sont extrêmement précises sur l'ensemble des symptômes. Donc je crois que la prise en charge, c'est la prise en charge par les généralistes, dont on connaît un petit peu la surcharge de travail, et puis évidemment la difficulté en fonction des régions pour les trouver, mais cette prise en charge initiale elle ne doit pas être surspécialisée, ce n'est que en cas de d'invalidité majeure, d'absence d'amélioration, que il faut envisager d'aller dans un centre de recours, ce qui a été fait pour d'autres pathologies et tout à fait déployable sur le territoire métropolitain et ultramarin d'ailleurs.
Donc on a compris le médecin généraliste, un recours tout à fait pertinent. Un autre regard, tout de suite, on part pour le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Professeur Louise Fortes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, coordinatrice prise en charge de la Covid-19 à l'hôpital d'Al Hajjam. Professeur Fortes, alors bien sûr, chaque pays, chaque région du monde a vécu différemment l'épreuve de la pandémie. Nous sommes revenus à de très nombreuses reprises dans Priorité Santé sur les spécificités pour le continent africain. En ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler des effets à long terme après la phase aiguë, qu'est-ce que vous observez, vous ?
C'est vrai que dans notre pratique, les patients qu'on a beaucoup plus tendance à voir en consultation, ce sont des patients qui se plaignent de difficultés respiratoires. C'est vrai que c'est beaucoup plus pour ces symptômes-là que les patients vont consulter, on va dire en post-Covid immédiat, qui malgré la guérison vont présenter des difficultés respiratoires. Après quelques cas qui viennent pour des asthénies physiques intenses, ou bien qui sont vraiment inquiétés par une perte de l'odorat et qu'ils n'arrivent pas à retrouver, en tout cas, cet odorat-là.
En tout cas, ce qui est important de souligner, c'est que dans le cas de l'Afrique de l'Ouest notamment, une très grande partie de cette population est passée sous les radars. Toutes les personnes asymptomatiques, il y a eu peu de tests finalement à l'échelle globale des populations. Et donc, si des personnes ont aujourd'hui certains symptômes, on va dire persistants, difficile de savoir, puisqu'elles n'ont pas été testées tout simplement quand elles avaient contracté le Covid.
Effectivement, ce serait vraiment difficile d'avoir, en tout cas, peut-être une bonne évaluation de ce syndrome post-Covid en Afrique, vu que la plupart des cas étaient asymptomatiques. Mais je pense que quand même, l'Afrique devrait pouvoir mener de telles études, parce que l'une des questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre, c'est est-ce que le syndrome Covid, est-ce qu'il est associé à la sévérité du tableau clinique. Il est vrai qu'il y a certaines études qui montrent déjà que le syndrome post-Covid était associé à des patients qui avaient des formes graves, mais ce serait intéressant de venir en Afrique et de voir quelle est la prévalence du syndrome post-Covid. Maintenant, en se disant peut-être qu'il y a des patients qui sont asymptomatiques, on pourrait éventuellement faire la sérologie et voir est-ce qu'ils ont des anticorps, est-ce qu'ils ont été vaccinés et pour voir exactement les syndromes qu'ils présentent, les signes qu'ils présentent. Est-ce que ça pourrait être en rapport avec un syndrome post-Covid ?
Et au niveau des soignants, est-ce qu'ils sont avertis, informés, professeur Louise Fortes ? Est-ce qu'ils savent qu'il y a comme ça aussi des symptômes neurologiques au long cours qui peuvent être associés à cette infection ? C'est vrai, beaucoup de gens imaginent que finalement, le Covid, c'est encore une grosse grippe et ils ne voient pas pourquoi. Eh bien, des semaines après, des personnes peuvent se retrouver clouées, comme on a entendu tout à l'heure avec notre témoin, incapables de se lever.
Oui, c'est vrai que en général, le personnel soignant, ils sont informés du syndrome post-Covid, mais il faut dire que dans notre contexte, on va beaucoup plus insister, malheureusement, sur les symptômes qui sont invalidants, notamment la prise en charge respiratoire. On a élaboré des procédures de prise en charge post-Covid en insistant surtout, en tout cas, sur ces symptômes-là qui sont beaucoup plus invalidants, que ce soit les complications post-Covid respiratoires, cardiaques, plutôt que d'autres, malheureusement, plutôt que d'autres, quand je dis, je pense à l'asthénie, le syndrome de fatigue chronique ou la perte de l'odorat.
Alors, il y a la recherche aussi qui avance dans les pays du Sud avec un certain nombre de travaux qui portent sur ce suivi des patients. Où en sont ces études, professeur Fortes?
Oui, dans le cadre de la COVID-19, tout au début, donc on a eu une collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar, avec le Centre Hospitalier Universitaire de Fan, avec professeur Moussa Seydi, et également d'autres hôpitaux, notamment l'hôpital d'Al Al-Jam. Donc, il a été mis en place une cohorte, notamment la cohorte Senkov, qui est une cohorte de patients en hospitalisation et également guéris, donc qui sont suivis pendant 6 mois, voire plus. Et nous espérons incessamment que nous aurons en tout cas les premiers résultats de cette cohorte qui s'appelle la cohorte Senkov.
Alors faites-nous signe quand vous aurez ces résultats. Merci beaucoup professeur Louise Fortes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va conclure avec nos deux invités. On retrouve à Rennes le professeur Pierre Tadevin. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure beaucoup de choses sont encore au stade de cette fameuse recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des explications? Est-ce qu'on cherche d'ailleurs toujours des explications, savoir pourquoi certains patients guérissent tout simplement quand d'autres stagnent, s'enfoncent en multipliant un certain nombre de troubles? Qu'est-ce que l'on cherche?
Bon, on a l'impression que le mécanisme principal, c'est quand même, ça doit être lié quelque part à tout l'engagement de la réponse immunitaire au moment de la phase de Covid initialement. Qui doit parfois un peu épuiser des patients et qui fait qu'au décours, ils ont du mal à récupérer. En tout cas, on a pu éliminer beaucoup d'autres pistes de physiopathologie de ces maladies-là, notamment tout ce qui est persistance du virus ou bien inflammation persistante ou bien des dégâts au niveau des organes. Donc on a des pistes. Et je pense qu'un des messages importants qui a été très bien dit par Mathieu Lestage, là, c'est qu'il faut pas perdre espoir, il faut rester persévérant, comme il disait, parce que rien n'est détruit. Donc il y a de l'espoir que les choses s'améliorent. C'est long, c'est parfois décourageant parce que c'est fluctuant, comme ça a été dit. Mais les espoirs restent permis quand même quand ça dure depuis longtemps.
Et on perçoit bien que pour un certain nombre de patients, le Covid n'est pas du passé. Et là encore, docteur Thomas de Brouckère, dans l'accompagnement, la pédagogie, faire accepter un suivi psychologique, même quand ce n'est pas une somatisation, mais pour autant, le besoin de se faire aider, parce que certains patients peuvent craindre d'être considérés comme des affabulateurs s'ils vont voir finalement le psy.
Oui, je crois qu'il y a une sorte de confusion qui est très très générale quand on dit, et c'est une expression malheureuse, hein, quand on dit qu'une pathologie, alors c'est pas valable pour tous les symptômes post-Covid, mais qu'une pathologie est dans la tête, on agit comme si le cerveau n'était fait que de motricité, de sensibilité, alors que non, c'est, avec l'âme qui serait à côté, vous savez, théorie dualiste hein, de l'âme et du corps. Non, en fait, on a un cerveau qui fait tout. Et le cerveau qui fait tout, quand il est dépassé, entre guillemets, hein, par une agression, hein, qui a été le Covid, probablement, quel que soit le mécanisme de l'agression, eh bien, il va se manifester par des défaillances qu'on va observer dans un certain nombre de champs, et notamment le champ de la fatigue. Et je crois que ça, c'est très important de comprendre ça. Alors après, qu'il y ait besoin d'un traitement ou d'une prise en charge, je dirais, qui soit multifactorielle, on le comprend de ce fait-là. Hein. Il y a évidemment de la psychologie pour ceux qui en ont besoin. Et il y a un certain nombre de gens que j'ai pu rencontrer qui avaient des grosses difficultés de mémoire et de fonctionnement au quotidien. Et quand on avait discuté avec eux, mais c'est pas du tout c'est une explication parfois, enfin qui peut venir. Et donc il faut aller la rechercher. Ces personnes avaient perdu deux membres
membres de leur famille.
Membres de leur famille, voire même les avaient contaminés. Donc il y avait tout un schéma psychologique qu'on pouvait entendre. Et quand on a parlé de stress post-traumatique, c'est une des pistes, mais ce n'est qu'une des pistes. Et on a bien vu que l'anxiété, la dépression n'étaient pas des facteurs essentiels de maintien du Covid long. Ça n'aide pas, hein. C'est sûr que le Covid long.
Ce n'est pas cette explication-là avec tout ce qu'on a vu depuis le début de l'émission. On vous remercie infiniment. On vous remercie tous les deux pour votre expertise, le partage de tous ces savoirs dans Priorité Santé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le moment de parler santé et sexualité dans Priorité Santé. C'est bien sûr avec vous, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Alors vous êtes sexologue et aujourd'hui vous allez nous parler des mots d'amour, les mots d'amour pendant l'amour. Pourquoi est-ce que c'est si important ?
Je vais commencer par le côté vraiment pratique. Figurez-vous que quand un homme dit des mots d'amour pendant une relation sexuelle, eh bien ça a tendance à retarder la survenue de son éjaculation. Ce qui fait que exprimer son amour à sa partenaire peut diminuer les risques d'éjaculation précoce. Et je pense que c'est très intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent parce qu'ils nous posent souvent des questions à ce sujet.
Alors pourquoi donc des mots d'amour peuvent-ils changer quelque chose sur cette question de l'éjaculation ?
C'est que quand on dit des mots d'amour, ça crée une émotion amoureuse qui se trouve plutôt du côté de la tendresse, alors que l'éjaculation, elle est déclenchée par une autre émotion qui n'est pas la tendresse, mais l'excitation. Autrement dit, quand on dit des mots d'amour, on fait diminuer un petit peu l'excitation sexuelle au profit de la tendresse entre les deux partenaires, et c'est cette diminution de l'excitation qui a tendance à retarder l'éjaculation.
Alors, vous avez parlé du côté pratique. Quels autres bénéfices est-ce qu'il peut y avoir à dire des mots d'amour au cours de la relation sexuelle ?
Alors, évidemment, il y en a d'autres. Donc, c'est important parce que la personne qui reçoit des mots d'amour se sent aimée. Et quand on se sent aimé, on a tendance à ressentir plus de plaisir, à se sentir plus heureux et à donner bien plus d'amour à l'autre. Parce que l'amour, c'est circulaire. Et si on est bien avec quelqu'un et qu'on est bien dans sa peau, eh bien, on donne plus et on reçoit plus. Et j'ajoute aussi que très souvent, il faut que les hommes le sachent, hein, et les femmes aussi d'ailleurs, le fait de recevoir des mots d'amour a tendance à augmenter le désir sexuel. Et ça me semble très important pour les couples où on a l'impression que son ou sa partenaire n'a pas tellement de désir. Je vais vous donner un exemple. J'ai un patient qui souffrait d'éjaculation précoce, qui l'embêtait beaucoup, et je lui ai conseillé de dire des mots d'amour à sa partenaire. Et quand je l'ai revu, il m'a dit « Mais c'est génial ce truc, d'abord ça marche, je retarde mon éjaculation, et en plus, depuis que je dis des mots d'amour, je me sens bien plus amoureux de ma compagne. » Et ça, c'est important parce que le fait d'exprimer son amour, ça le rend plus réel, plus ancré, et on se sent plus amoureux quand on exprime régulièrement l'amour.
Alors, on peut se dire tout ça, c'est pas très spontané, des conseils, des mots d'amour, on va dire sur commande, comment justement trouver le naturel tout en utilisant vos conseils et votre technique.
Oui, vous avez raison Caroline, c'est vrai que si on apprend par cœur des mots d'amour, on se dit voilà, je vais dire ça, c'est pas très naturel, mais je conseille à mes patients déjà de ne jamais mentir, d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment, sinon c'est de la manipulation, c'est plus de l'amour, donc ça c'est important. Et puis je leur demande quand même de penser à l'avance à ce qu'ils auront envie de dire pendant une relation sexuelle, mais de penser à ce qu'ils ressentent envers leur partenaire réellement. Et c'est important parce que quand on n'est pas habitué à le faire, quand on dit jamais de mots d'amour pendant l'amour, et ça ne vient pas spontanément, donc il faut se préparer. Au début, il faut se motiver un peu, et puis après, ça vient de plus en plus spontanément, tout simplement parce que c'est si agréable pour les deux partenaires.
Et vraiment, on va dire que les mots d'amour ou les compliments, ce n'est pas simplement au cours des relations sexuelles. Ça paraît une évidence, mais vous devez le rappeler.
Oui, vous avez raison, Caroline. Ça doit se faire, bien sûr, à n'importe quel moment de la journée. Et je vais dire que pour exprimer l'amour, bien sûr, il n'y a pas que les mots, il y a aussi les gestes, les attentions, les regards, les sourires, les cadeaux, etc. Tout ça, ça enrichit la relation amoureuse.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et là, vraiment des conseils à suivre. À bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cetoussama, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurence Nou avec nous aujourd'hui. Demain, émission Questions de femmes, nous allons parler des allergies. Ce qu'il faut changer à la maison, dans ses habitudes, quels traitements peuvent soulager ? On se retrouve à 9h10 temps universel. On se dit bien sûr à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sonoubank, qui a le bon profil pour vous accompagner à chaque étape de votre vie et de vos projets.